Quand Eve se fit rendre compte de ce premier trimestre par Cérizet, elle trouva que la recette était de 400 francs. La dépense, à raison de 3 francs par jour pour Cérizet et Kolb, qui avaient pour leur journée l'un 2 et l'autre 1 franc, s'élevait à 300 francs. Or, comme le prix des fournitures exigées par les ouvrages fabriqués et livrés se montait à 100 et quelques francs, il fut clair pour Eve que pendant les 3 premiers mois de son mariage, la ville avait perdu ses loyers, l'intérêt des capitaux représenté par la valeur de son matériel et de son brevet, les gages de Marion, l'encre, et enfin les bénéfices que doit faire un imprimeur. Ce monde de choses exprimé en langage d'imprimerie par le mot « étoffe », expression due au drap, aux soieries employées à rendre la pression de la vis moins dure au caractère par l'interposition d'un carré d'étoffe, le blanchet, entre la platine de la presse et le papier qui reçoit la pression. Après avoir compris en gros les moyens de l'imprimerie et ses résultats, Eve devina combien peu de ressources offrait cet atelier desséché par l'activité dévorante des frères Cointet, à la fois fabricant de papier, journaliste, imprimeur, breveté de l'évêché, fournisseur de la ville et de la préfecture. Le journal que, 2 ans auparavant, les Séchard père et fils avaient vendu 22 000 francs, rapportait alors 18 000 francs par an. Eve reconnut les calculs cachés sous l'apparente générosité des frères Cointet qui laissaient à l'imprimerie Séchard assez d'ouvrages pour subsister, et pas assez pour qu'elle leur fît concurrence. En prenant la conduite des affaires, elle commença par dresser un inventaire exact de toutes les valeurs. Elle employa Kolb, Marion et Cérizet à ranger l'atelier, le nettoyer et y mettre de l'ordre. Puis, par une soirée où David revenait d'une excursion dans les champs, suivi d'une vieille femme qui lui portait un énorme paquet enveloppé de linge, Eve lui demanda des conseils pour tirer parti des débris que leur avait laissés le père Séchard, en lui promettant de diriger à elle seule les affaires. D'après l'avis de son mari, Madame Séchard employa tous les restants de papier qu'elle avait trouvés et mis par espèce à imprimer sur 2 colonnes et sur une seule feuille ces légendes populaires coloriées que les paysans collent sur les murs de leurs chaumières. L'histoire du juif errant, Robert le Diable, la belle Maglone, le récit de quelques miracles. Eve fit de Kolb un colporteur. Cérizet ne perdit pas un instant. Il composa ses pages naïves et leurs grossiers ornements depuis le matin jusqu'au soir. Marion suffisait au tirage. Madame Chardon se chargea de tous les soins domestiques car Eve coloria les gravures. En 2 mois, grâce à l'activité de Kolb et à sa probité, Madame Séchard vendut, à 12 lieues à la ronde d'Angoulême, 3 000 feuilles qui lui coûtèrent 30 francs à fabriquer et qui lui rapportèrent à raison de 2 sous-pièces 300 francs. Mais quand toutes les chaumières et les cabarets furent tapissés de ces légendes, il fallut songer à quelque autre spéculation, car l'Alsacien ne pouvait pas voyager au-delà du département. Eve, qui remuait tout dans l'imprimerie, y trouva la collection des figures nécessaires à l'impression d'un almanach dit d'héberger, où les choses se représentaient par des signes, par des images, des gravures en rouge, en noir ou en bleu. Le vieux Séchard, qui ne savait ni lire ni écrire, avait jadis gagné beaucoup d'argent à imprimer ce livre destiné à ceux qui ne savent pas lire. Cet almanach, qui se vend 1 sou, consiste en une feuille pliée 64 fois, ce qui constitue un in-64 de 128 pages. Tout heureuse du succès de ces feuilles volantes, industrie à laquelle s'adonnent surtout les petites imprimeries de province, Madame Séchard entreprit l'almanach des bergers sur une grande échelle en y consacrant ses bénéfices. Le papier de l'almanach des bergers, dont plusieurs millions d'exemplaires se vendent annuellement en France, est plus grossier que celui de l'almanach liégeois et coûte environ 4 francs la rame. Imprimée, cette rame, qui contient 500 feuilles, se vend donc, à raison d'un sou la feuille, 25 francs. Madame Séchard résolut d'employer 100 rames à un premier tirage, ce qui faisait 50 000 almanachs à placer et 2000 francs de bénéfices à recueillir. Quoique distrait comme devait l'être un homme si profondément occupé, David fut surpris en donnant un coup d'œil à son atelier d'entendre grogner une presse et de voir Cérizet toujours debout, composant sous la direction de Madame Séchard. Le jour où il y entra pour surveiller les opérations entreprises par Eve, ce fut un beau triomphe pour elle que l'approbation de son mari qui trouva l'affaire de l'almanach excellente. Aussi, David promit-il ses conseils pour l'emploi des encres de diverses couleurs que nécessitent les configurations de cet almanach où tout parle aux yeux. Enfin, il voulut refondre lui-même les rouleaux dans son atelier mystérieux pour aider, autant qu'il le pouvait, sa femme dans cette grande petite entreprise. Au milieu de cette activité furieuse, vinrent les désolantes lettres par lesquelles Lucien apprit à sa mère, à sa sœur et à son beau-frère son insuccès et sa détresse à Paris. On doit comprendre alors qu'en envoyant à cet enfant gâté 300 francs, Ève, Madame Chardon et David avaient offert au poète, chacun de leur côté, le plus pur de leur sang. Accablée par ces nouvelles et désespérée de gagner si peu en travaillant avec tant de courage, Ève n'accueillit pas sans effroi l'événement qui met le comble à la joie des jeunes ménages. Et se voyant sur le point de devenir mère, elle se dit « Si mon cher David n'a pas atteint le but de ses recherches au moment de mes couches, que deviendrons-nous? Et qui conduira les affaires naissantes de notre pauvre imprimerie ?» L'almanach des bergers devait être bien fini avant le 1er janvier. Or, Cérizet, sur qui roulait toute la composition, y mettait une lenteur d'autant plus désespérante que Madame Séchère ne connaissait pas assez l'imprimerie pour le réprimander. Elle se contenta d'observer ce jeune parisien. Orphelin du grand hospice des enfants trouvés de Paris, Cérizet avait été placé chez messieurs Didot comme apprenti. De 14 à 17 ans, il fut le séide de Séchard, qui le mit sous la direction d'un des plus habiles ouvriers et qui offrit son gamin, son page typographique. Car David s'intéressa naturellement à Cérizet en lui trouvant de l'intelligence, et il conquit son affection en lui procurant quelques plaisirs et les douceurs que lui interdisait son indigence. Doué d'une assez jolie petite figure chafouine, à chevelure rousse, les yeux d'un bleu trouble, Cérizet importa les mœurs du gamin de Paris dans la capitale de Langoumois. Son esprit vif et railleur, sa malignité les rendirent redoutables. Moins surveillé par David à Angoulême, soit que, plus âgé, il aspira plus de confiance à son mentor, soit que l'imprimeur compta sur l'affluence de la province, Cérizet devint, à l'issue de son tuteur, le don Juan en casquette de 3 ou 4 petites ouvrières et se déprava complètement. Sa moralité, fille des cabarets parisiens, prit l'intérêt personnel pour unique loi. D'ailleurs, Cérizet, qui selon l'expression populaire devait tirer à la conscription l'année suivante, se voyait sans carrière. Aussi fit-il des dettes en pensant que dans 6 mois il deviendrait soldat, et qu'alors aucun de ses créanciers ne pourrait courir après lui. David conservait quelque autorité sur ce garçon, non pas à cause de son titre de maître, non pas pour s'être intéressé à lui, mais parce que l'ex-gamin de Paris reconnaissait en David une haute intelligence. Cérizet fraternisa bientôt avec les ouvriers des cointés, attirés vers eux par la puissance de la veste, de la blouse, enfin par l'esprit de corps, plus influent peut-être dans les classes inférieures que dans les classes supérieures. Dans cette fréquentation, Cérizet perdit le peu de bonne doctrine que David lui avait inculquée. Néanmoins, quand on le plaisantait sur les sabots de son atelier, terme de mépris donné par les ours aux vieilles presses des Séchard, en lui montrant les magnifiques presses en fer au nombre de 12, qui fonctionnait dans l'immense atelier des Cointés, où la seule presse en bois existante servait à faire les épreuves, il prenait encore le parti de David, et jetait avec orgueil ses paroles au nez des blagueurs. « Avec ses sabots, mon naïf ira plus loin que les vôtres avec leurs bilboquets en fer d'où il ne sort que des livres de messe. Il cherche un secret qui fera la queue à toutes les imprimeries de France et de Navarre. En attendant, méchant prote à 40 sous, tu as pour bourgeois une repasseuse, lui répondait-on. « Tiens, elle est jolie, » répliquait Cérizet, « et c'est plus agréable à voir que les mufles de vos bourgeois. Est-ce que la vue de sa femme te nourrit ?» De la sphère du cabaret ou de la porte de l'imprimerie où ces disputes amicales avaient lieu, quelques lueurs parvint aux frères Cointet sur la situation de l'imprimerie Séchard. Ils apprirent la spéculation tentée par Ève et jugèrent nécessaire d'arrêter dans son essor une entreprise qui pouvait mettre cette pauvre femme dans une voie de prospérité. « Donnons-lui sur les doigts afin de la dégoûter du commerce !» se dirent les deux frères. Celui des deux Cointet qui dirigeait l'imprimerie rencontra Cérizet et lui proposa de lire des épreuves pour eux, à temps par épreuve, pour soulager leurs correcteurs qui ne pouvaient suffire à la lecture de leurs ouvrages. En travaillant quelques heures de nuit, Cérizet gagna plus avec les frères Cointet qu'avec David Séchard pendant sa journée. Il s'ensuivit quelques relations entre les Cointet et Cérizet, à qui l'on reconnut de grandes facultés, et complaignit d'être placé dans une situation si défavorable à ses intérêts. « Vous pourriez, lui dit un jour l'un des Cointet, devenir prote d'une imprimerie considérable, où vous gagneriez 6 francs par jour, et avec votre intelligence, vous arriveriez à vous faire intéresser un jour dans les affaires. »« À quoi cela peut-il me servir d'être un bon prote ?» répondit Cérizet. « Je suis orphelin, je fais partie du contingent de l'année prochaine, et si je tombe au sort, qui est-ce qui me paiera un homme ?» « Si vous vous rendez utile, » répondit le riche imprimeur, « pourquoi ne vous avancerait-on pas la somme nécessaire à votre libération ?»« Ce ne sera toujours pas mon naïf, » dit Cérizet. Bah, peut-être auras-tu trouvé le secret qu'il cherche. Cette phrase fut dite de manière à réveiller les plus mauvaises pensées chez celui qui l'écoutait. Aussi Cérizet lança-t-il au fabricant de papier un regard qui valait la plus pénétrante interrogation. Je ne sais pas de quoi il s'occupe, répondit-il prudemment en trouvant le bourgeois muet. Mais ce n'est pas un homme à chercher des capitales dans son bas de casse. Tenez, mon ami, dit l'imprimeur en prenant 6 feuilles du paroissien de diocèse et les tendant à Cérizet. Si vous pouvez nous avoir corrigé cela pour demain, vous aurez demain 18 francs. Nous ne sommes pas méchants, nous faisons gagner de l'argent aux proches de notre concurrent. Enfin, nous pourrions laisser Madame Séchard s'engager dans l'affaire de l'almanach des bergers et la ruiner. Eh bien, nous vous permettons de lui dire que nous avons entrepris un almanach des bergers et de lui faire observer qu'elle n'arrivera pas la première sur la place. On doit comprendre maintenant pourquoi Cérizet allait si lentement sur la composition de l'almanach. En apprenant que les cointets troublaient sa pauvre petite spéculation, F fut saisie de terreur et voulut voir une preuve d'attachement dans la communication assez hypocritement faite par Cérizet de la concurrence qu'il attendait. Mais elle surprit bientôt chez son unique compositeur quelques indices d'une curiosité trop vive qu'elle voulut attribuer à son âge. Cérizet, lui dit-elle un matin, vous vous posez sur la pedale à la porte et vous attendez Monsieur Séchard au passage afin d'examiner ce qu'il cache. Vous regardez dans la cour quand il sort de l'atelier à fondre les rouleaux au lieu d'achever la composition de notre almanach. Tout cela n'est pas bien, surtout quand vous me voyez, moi, sa femme, respectant ses secrets et me donnant tant de mal pour lui laisser la liberté de se livrer à ses travaux. Si vous n'aviez pas perdu tant de temps, l'almanach serait fini. Comme on vendrait déjà, les cointets ne pourraient nous faire aucun tort. Eh, madame, répondit Cérizet, pour 40 sous par jour que je gagne ici, croyez-vous que ce ne soit pas assez de vous faire pour 100 sous de composition? Mais si je n'avais pas des épreuves à lire le soir pour les frères cointets, je pourrais bien me nourrir de sons. Vous êtes ingrat de bonheur, vous ferez votre chemin, répondit Ève, atteinte au cœur, moins par les reproches de Cérizet que par la grossièreté de son accent, par sa menaçante attitude et par l'agression de ses regards. Ce ne sera toujours pas avec une femme pour bourgeois, car alors le mois n'a pas souvent 30 jours. En se sentant blessée dans sa dignité de femme, Ève jeta sur Cérizet un regard foudroyant et remonta chez elle. Quand David vint dîner, elle lui dit « Es-tu sûre, mon ami, de ce petit drôle de Cérizet ?»« Cérizet, répondit-il, eh, c'est mon gamin, je l'ai formé, je l'ai eu pour teneur de copie, je l'ai mis à la casse, enfin, il me doit d'être tout ce qu'il est. Autant demander à un père s'il est sûr de son enfant. » Ève apprit à son mari que Cérizet lisait les épreuves pour le compte des cointets. « Pauvre garçon, il faut bien qu'il vive, » répondit David avec l'humilité d'un maître qui se sentait en faute. « Oui, mais mon ami, voici la différence qui existe entre Kolb et Cérizet. Kolb fait 20 lieues tous les jours, dépense 15 ou 20 sous, nous rapporte 7, 8, quelquefois 9 francs de feuilles vendues, et ne me demande que ses 20 sous, sa dépense payée. Kolb se couperait la main plutôt que de tirer le barreau d'une presse chez les cointets. Il ne regarderait pas les choses que tu jettes dans la cour quand on lui offrirait 1000 écus, tandis que Cérizet les ramasse et les examine. » Les belles âmes arrivent difficilement à croire au mal, à l'ingratitude. Il leur faut de rudes leçons avant de reconnaître l'étendue de la corruption humaine. Puis, quand leur éducation en ce genre est faite, elle s'élève à une indulgence qui est le dernier degré du mépris. « Bah, pure curiosité de gamin de Paris !» s'écria donc David. « Eh bien, mon ami, fais-moi le plaisir de descendre à l'atelier, d'examiner ce que ton gamin a composé depuis un mois, et de me dire si, pendant ce mois, il n'aurait pas dû finir notre almanach. »